Vous écoutez Erdiwa sur la fréquence 107.5 ou sur www.rdwa.fr. Plantule et compagnie. Une émission qui permet de découvrir ou redécouvrir chaque semaine une plante de nos contrées que l'on peut cueillir, manger ou transformer. Bonne écoute.
Les sanglots longs des violons de l'automne bercent mon cœur d'une langueur monotone.
Cette semaine, je me suis plongée dans un univers botanique qui m'était inconnu, un nouvel univers, celui des arbres du genre Sorbus, que l'on connaît généralement sous les noms de sorbier, cormier ou alisier. Comme j'ai passé le début de ma semaine du côté de Embrun, dans les Hautes-Alpes, et que les alentours sont clafis de ces petits arbres, j'ai eu envie d'aller les rencontrer, d'en apprendre davantage. Je consacre donc cette émission au sorbier Ocuparia, le sorbier des oiseleurs, mais je ne pourrais sûrement pas en parler parfaitement sans évoquer ses nombreux cousins, les cormiers, les alisiers et autres sorbiers. C'est vrai, la récolte des petits fruits de ces arbres se fait plutôt dans l'automne. Mais j'ai voulu tout de même en parler car ils vont rester accrochés à l'arbre pendant l'hiver. Vous pouvez encore en cueillir, même s'ils seront peut-être moins qualitatifs. Ou du moins, grâce à leur couleur rouge luisante, vous pourrez facilement les reconnaître pour l'année prochaine. Peut-être que je réussirai à vous donner envie d'en planter un dans votre jardin si vous en avez un, ou n'importe où ailleurs. Sorbus aucuparia, famille des rosacées, genre Sorbus.
Toum, toum, toum.
Le sorbier est un petit arbre héliophile à faible enracinement. Il atteint généralement 10 à 15 mètres de haut. J'ai lu cependant dans un article écrit par Michel Lagacherie et Bernard Cabanne, qui sont deux réels admirateurs des Sorbus, l'indication suivante. La littérature botanique sous-estime souvent ces arbres. Je cite. Souvent disséminés et mal connus, les sorbiers ont été relégués comme essence secondaire et l'aspect sous lequel on les rencontre actuellement dans la nature ne reflète pas le développement quantitatif et qualitatif dont ils sont capables. Même les dimensions potentielles annoncées dans la littérature sont bien souvent sous-estimées et malgré leur apparence fréquente d'arbustes, ils peuvent devenir de véritables arbres. Les deux auteurs expliquent par la suite que même si le sorbier est souvent observé arbuste, on peut le trouver haut de 20 mètres et portant un ventre de 50 cm de diamètre. Le sorbier des oiseleurs est porté par une tige droite dont l'écorce est lisse et d'un gris clair qui va devenir plus foncé avec l'âge. Les jeunes tiges de sorbier comportent des lenticelles blanches, c'est-à-dire que sur l'écorce, l'on peut remarquer de petites aspérités. Ces lenticelles sont des pores qui permettent à l'arbre d'échanger avec son environnement, avec l'atmosphère et l'eau. Les branches du sorbier sont longues, ramifiées à cime ovale ou pyramidale. Chez l'adulte, la ramification est davantage évasée. Les bourgeons foliaires sont fusiformes, ils prennent la forme d'un fusain. Le feuillage du sorbier des oiseleurs est caduque. Il le perd en automne lorsque celui-ci aura pris des teintes allant du jaune au rouge. Les feuilles composées sont formées d'un ensemble de folioles, allant de 9 jusqu'à 15. La feuille en elle-même est donc longue de 10 à 15 cm. On dit que la feuille est imparipennée, c'est-à-dire que les folioles qui la constituent sont disposées des deux côtés du pétiole en nombre impair. Les folioles sont ovales, lancéolées, dentées, presque sessiles, ils se rattachent directement au pétiole. Glabres, ils sont d'un vert foncé sur leur face supérieure et d'un vert pâle sur le revers, légèrement pubescent, couvert d'un fin duvet. Les petites feuilles du sorbier des oiseleurs sont d'un blanc crème. Sur les rameaux, elles s'épanouissent sur des corymbes axillaires et terminaux. Les corymbes apparaissent touffus de mai à juin, voire juillet selon le climat. Cela permet une longue et riche floraison. Pollinifères et nectarifères, les insectes les apprécient. Chaque fleur est composée d'un corolle formé de 5 pétales concaves, soutenus par un calice vert pubescent, également formé de 5 divisions, 5 sépales concaves. Le pédoncule qui tient ses fleurs est velu lui aussi. Les fleurs sont bisexuées. Elles possèdent donc étamine et pistil, sexe femelle et sexe mâle. Ce sont les petits insectes qui vont faire circuler le pollen d'un organe à l'autre en venant butiner leur précieuse potion. Les fruits, quant à eux, sont des baies pulpeuses, arrondies, ombiliquées. Ils présentent une dépression évoquant un ombilique, le nombril du fruit, un point central. Rouges, il faut les chercher parmi les feuillages en automne, mais ils deviennent facilement visibles lorsque les feuilles tombent au sol. Comme l'églantier, le sorbier contraste les couleurs tournant au gris de l'hiver. Les fruits brillants sont très appétissants. Leur petite chair entoure trois semences oblongues.
Je vois un petit rouge-gorge. Je crois que c'est par ici qu'on est passé. Alors c'est le... Je vais prendre le sentier qui va vers le Méal et qui peut aussi nous amener à Crévoux en partant des Gaillards de Saint-Sauveur.
Cet arbre est originaire d'Europe et d'Asie. On le trouve naturalisé dans l'ensemble des pays européens jusqu'en Scandinavie, en Sibérie et jusqu'au Japon, en passant par l'Asie tempérée. En France, le sorbier est commun, mais il est moins présent à l'ouest et absent de la région méditerranéenne.
Ça sent le mouton.
C'est un arbre des forêts collinéennes et montagnardes. Il peut gravir jusqu'à 2300 mètres d'altitude. Essence de lumière, il habite les bois clairs, les haies, les lisières de forêt, les bords de chemin, les clairières ou encore les terrains en friche. Ainsi, bien que le sorbier est résistant au froid, il possède ses petites faiblesses, notamment la suivante. Il a besoin de son espace pour vivre, d'un ensoleillement agréable pour faire dorer ses feuilles et il est donc sensible à la pousse des autres arbres en forêt. Ainsi, il est perçu comme un arbre peu sociable alors qu'il est peut-être seulement un peu timide. Le sorbier des oiseleurs a besoin d'humidité assez constante pour se développer. Il apprécie l'eau. Il s'épanouit sur les terrains siliceux et il est donc une plante plutôt acidophile. Mais on le trouve aussi sur des terrains calcaires. Le sorbier des oiseleurs peut vivre jusqu'à 120 ans. Des sorbus, il en existe des tas. Près de 200 espèces d'arbres et d'arbustes du genre sorbus peuplent les régions méridionales de l'hémisphère nord. Michel et Bernard expliquent. La génétique et la classification des sorbus sont confuses, compliquées, par de fréquentes hybridations. Bien que dénommées couramment sorbiers, alisiers ou commiers, elles font toutes partie du même genre, sorbus, qui est en cours de recomposition par les taxonomistes. Cette phrase me paraît importante. J'ai l'impression que ces petits arbres sont assez méconnus et que peu de recherches ont vraiment permis de comprendre leur histoire. Peut-être que cette fameuse recomposition du groupe va permettre d'élucider quelques mystères. Le sorbier des oiseleurs est le plus connu et le plus cultivé. Ce sont les grives qui sont les expertes en dissémination de celui-ci, qu'on appelle communément le sorbier des grives. C'est grâce à leur action qu'il se répand naturellement. Son nom, sorbier des oiseleurs, vient du fait que les oiseleurs utilisaient l'arbre comme appât pour attirer les oiseaux. Je ne vais pas en parler beaucoup pendant cette émission, mais c'est vrai que ça m'a permis de découvrir ce qu'étaient les oiseleurs, que je ne connaissais pas du tout en fait, et tout l'ensemble des pratiques qu'ils utilisaient en fait pour attirer les oiseaux, dont certaines sont complètement cruelles. Mais enfin voilà, en tout cas, il faut savoir que le nom oiseleur vient de cette utilisation, et du coup, le sorbier était planté dans... avec d'autres arbres, en fait, pour créer souvent des cercles, pour piéger les oiseaux avec des filets. Le sorbier des oiseleurs est aussi utilisé comme plante d'ornement et d'alignement. Il est en ville une ressource précieuse pour la faune qui s'y trouve, et il est présent dans les parcs et certains jardins où il peut ainsi développer sa beauté.
En tout cas, si vous venez balader par ici, il faut prévoir des raquettes. Ça, c'est sûr que c'est bon, ça commence.
Mes recherches m'ont amené à considérer le sorbier des oiseleurs comme un arbre utile à l'élaboration des haies. En effet, les haies ont des fonctions très variées. Elles permettent la protection des cultures et des troupeaux du vent. Elles sont une réserve de nourriture et d'abri. Elles aident au développement d'une faune variée, des insectes, des petits mammifères et batraciens ainsi que des oiseaux. Les haies permettent également de protéger les sols de l'érosion en le retenant par ses racines. De la même façon, elles vont pouvoir jouer un rôle dans l'assainissement de l'eau en retenant les sols et ainsi les fertilisants de synthèse dégueulasses utilisés en culture conventionnelle. Les sorbiers sont intéressants dans les haies. Non seulement ils constituent une réserve de nourriture pour les oiseaux en période d'hiver, mais aussi une masse intéressante tant son feuillage est dense, sa petite taille et sa possible forme de buisson retiennent davantage l'air, la neige et autres. Mes recherches sur le sorbier m'ont donné connaissance de son utilisation dans la constitution de haies végétales pour retenir la neige et éviter la propagation de congères sur la route. Cet exemple me paraît significatif. Il donne à voir qu'un bon nombre de problèmes et d'enjeux, allant de la sécurité routière à la lutte primordiale contre le réchauffement climatique, peuvent être pensés avec l'aide de ces arbres et plantes dont on ignore souvent le rôle écologique. Présent à des altitudes élevées, il est le seul feuillu à s'étendre jusqu'aux limites de la végétation en montagne. Il est donc un élément de diversification de la végétation arborescente à ces altitudes. Les sculpteurs, ébénistes, tourneurs, etc. ont eu par le passé un grand intérêt pour le bois de sorbier. Michel et Bernard écrivent. L'alisier terminal, le cormier mais aussi les autres espèces du genre, ont un bois alliant résistance mécanique, stabilité une fois séché, finesse du grain et du poli, élasticité et résistance à l'usure par frottement. Ces qualités techniques particulières leur ont donné une importance économique assez grande dans le passé. Fabrication de vis de pressoirs, engrenages, manches d'outils, roues et timons de chariots, poulies, fuseaux, semelles de rabots, etc. Ils sont toujours utilisés en lutherie, pièces mécaniques de piano, clés d'instruments de musique à cordes, flûtes, et comme instruments de mesure, règles. Voici une belle liste qui nous rappelle que arbres et activités de création sont liées. C'est un bois qui n'est plus cependant si célèbre. Au sorbier, l'on préfère le cormier. Pourtant, le bois de sorbier est lui aussi raffiné. En petite quantité, il peut être utilisé pour de petits ouvrages. Pendant longtemps, on lui a d'ailleurs reconnu des pouvoirs magiques. C'est sur le bois de sorbier qu'étaient gravées les paroles mystiques écrites en alphabet runique, les runes, lettres magiques utilisées par les populations germaniques à partir du IIe siècle. Certains font le rapprochement entre les mots rogn, qui signifie sorbus occuparia en norvégien, ron en suédois, rowan en anglais, et le mot rune, qui désigne les secrets, les mystères, les incantations. Pendant longtemps, l'on a considéré le sorbier des oiseleurs comme un être de protection contre les enchantements. Il est un protecteur. Encore récemment, cette croyance donnait lieu aux pratiques suivantes. Des rameaux coupés à l'aide d'une lame de cuivre étaient accrochés à l'entrée des étables pour protéger les animaux. En Estonie et en Suède, on frappait le jeune bétail d'un coup de bâton de cet arbre pour lui éviter maladies et accidents, mais aussi pour favoriser la fécondation. L'on faisait passer chèvres, moutons, agneaux dans des arceaux en bois de sorbier pour leur réserver le bon œil. Au Pays de Galles, il était coutume de planter un sorbier des oiseleurs pour protéger l'esprit des morts dans un cimetière. Arbre sacré des druides, il existe un proverbe. Là où poussent les sorbiers, les druides ne sont jamais loin. Le sorbier entretient un lien avec la divination et les incantations. Les druides allumaient les feux lors de rituels avec son bois. La fumée provoquée devait être protectrice et assainir l'espace pour procéder aux divinations. Protéger les maisons, éloigner les sorts maléfiques, Les rameaux de l'arbre servent à la confection des baguettes de pouvoir et entrent dans les processus de guérison. Aujourd'hui, nous avons coutume de consommer les baies. Mais attention, crus, ils sont toxiques. La présence d'acide cyanhydrique dans les pépins peut amener détresse respiratoire. L'acide parasorbique, quant à lui, provoque des troubles digestifs. Cuites ou distillées, les baies sont exemptes de toxicité. De coutume, les baies sont transformées en sorbet, en confiture, en gelée, en liqueur. En Europe du Nord, différents alcools et différentes recettes font honneur aux fruits du sorbier, qui servent notamment à la confection du kirsch ou à aromatiser la vodka en Pologne. Les baies contiennent du tanin, différents acides sorbiques, maliques et parasorbiques, de la pectine, ainsi que différents sucres, dont la saccharose, la dextrose et le sorbitol. Ce dernier fut découvert dans les baies de sorbier. Il est désormais synthétisé et utilisé comme édulcorant, notamment pour les diabétiques. Il est un édulcorant non fermentescible et un purgatif qui est actuellement produit par synthèse dans l'industrie agroalimentaire. Les petits fruits sont assez riches en vitamine C. Leurs vertus astringentes en font un allié contre les extinctions de voix et les enrouements. Michel et Bernard ajoutent à ces vertus les suivantes. Riches en tanins, acides pectiques et sorbitol, ils ont des propriétés antidiarrhéiques. Le sorbier des oiseleurs peut avoir un effet inverse avec les fruits à l'état frais. Cicatrisantes, antitussives, diurétiques, éménagogues, cholagogues, antihémorragiques, etc. Les feuilles ont elles aussi des propriétés et peuvent être utilisées en décoction. Bon, ce n'est pas la meilleure période de récolte. Il est préférable de les récolter en octobre, lorsque le fruit commence à être blette. Mais on peut encore aller en chercher quelques-uns, du moins pour les connaître. Attention donc de ne pas les manger crus. Je voulais aussi vous rappeler que vous pouvez écouter sur le site de la radio ma première émission consacrée aux genévriers, que vous pouvez toujours aller cueillir dans les bois. Merci d'écouter Plantule et compagnie. Je vous souhaite une bonne semaine et de bonnes balades.
Oh, voici un arbre avec plein de baies rouges. Toum toum toum. Est-ce que ce serait ça? Alors il a une écorce très lisse, tachetée de blanc un peu. Ouh là là, par contre il y a de la neige. Comment je vais faire pour m'enfoncer là-dedans? Waouh! Donc ça fait un peu des bouquets de fruits rouges, très très rouges, avec des petits fruits ronds qui sont lisses, avec une peau lisse et presque brillante. J'ai complètement l'impression que ça pourrait être ça. Et alors là, il se met à y en avoir plusieurs. Et c'est marrant parce que au sol, ça fait des tapis de petites taches rouges de fruits qui sont tombés en fait dans la neige. Je vais essayer de grimper. Peut-être qu'il y en a qui sont plus accessibles. Thank you.